C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Mauro Bolognini, cinéaste 1922-2001, italien, politique gauche, homosexuel dissimulé. Œuvre Les Garçons, La Note Brave, 1959. Personnage Les Garçons, c'est à savoir Ruggeretto, interprété par Laurent Terzieff. Scintillone, interprété par Jean-Claude Brialy, à qui viennent s'adjoindre Bella Bella, Franco Interlenghi et Moretto Thomas Milian. Mauro Bolognini a réalisé plusieurs films dont l'ambiguïté frémissante n'a échappé à personne, sinon aux naïfs, et ça fait du monde. Un de ses plus célèbres films, Le Bel Antonio, avec Marcello Mastroianni, porte apparemment sur l'impuissance, mais le sujet caché et néanmoins très réel de cette histoire d'homme qui n'arrive à rien avec les femmes, c'est très probablement l'homosexualité. De même, dans Les Garçons, il y a une scène qu'on pourrait mettre en regard avec la scène de fête de la Dolce Vita, et c'est une scène où tous les garçons du film sont seuls ensemble, vautrés dans des canapés, torse à demi nu, l'un se caressant le torse pendant que l'autre lui tient le bras, et le premier donnant un billet de banque au second. Si on regarde la scène sans les paroles, c'est tout à fait suggestif. Et je passe sur un autre des garçons tendant une cuisse de poulet qu'il vient de mordre à un autre. Eh bien, à mon sens, le distributeur français a très bien compris cela, qui a donné à ce film dont le titre italien parle de nuit, le titre français d'un roman très ambigu de Monterland sur les amours de collège. Les Garçons. Tant d'allusions, tellement de secrets aperçus par une porte de placard entrouverte. Et d'une certaine façon, quelle tristesse, c'est tant qu'y imposait l'hypocrisie aux œuvres de fiction, à Monterland comme à Bolognini. C'était plus difficile pour le cinéaste, car il vivait dans un pays occupé par l'Église catholique, qui y imposait, qui y impose encore, sa gigantesque hypocrisie. Et on obtenait ces films, qui parlent de ceci, à défaut de cela. Outre Les Garçons et Le Bel Antonio, il a réalisé l'admirable La Corruption, où un homme de pouvoir tente de détourner son fils de sa vocation de prêtre et peut-être d'une autre vocation en lui mettant sa maîtresse dans les bras. Si la scène cruciale des garçons est peut-être celle de la fête, on dirait que la corruption a pour véritable objet de montrer pendant un quart d'heure à bord du bateau Francis Perrin jeune et torse nu et imberbe dans un rêve de page de cour qu'il voudrait serrer dans ses bras. La terreur accroît la finesse sans doute, mais de même que la vie heureuse se vit sans ruse, l'art rusant est souvent cantonné à sa ruse, et les puissances gardent l'essentiel. Qui sont les garçons? Pour en parler, je reçois Jean Gilly, qui a enseigné l'histoire du cinéma à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et est l'auteur de très nombreux livres sur le cinéma italien. Jean Gilly, à quoi ressemblent physiquement les garçons?
Ce sont des jeunes gens. Il faut déjà les situer dans un créneau. Ce sont tous des personnages qui ont entre 20 et 30 ans, sans doute même moins, disons entre 20 et 25. On est en présence d'un certain nombre de personnages, garçons et filles d'ailleurs, puisqu'il y a une espèce d'ambivalence entre d'un côté les garçons qui sont tous des voyous, des personnages qui vivent à la petite semaine et dont le principal souci est de trouver de l'argent, et puis il y a les filles qui ont évidemment cette possibilité qui d'une certaine manière s'offre aussi aux garçons, c'est-à-dire la prostitution. Donc on est dans ce milieu de voyous et de prostituées qui, à l'évidence, font bon ménage. Et les garçons, dans le film, évidemment, ils sont au cœur du récit, et vous avez eu tout à fait raison de souligner la justesse de la traduction française, parce que la note brave, oui, d'ailleurs en français, c'était difficile à traduire,
oui,
la nuit brave.
La nuit courageuse, la nuit brave.
Bon, c'était un peu délicat, tandis que les garçons, ça va très bien, d'autant que finalement, à l'évidence, Bolognini s'intéresse. Il a toujours, moi je l'ai rencontré bien, assez bien connu, il s'intéressait beaucoup aux comédiennes. Bon, mais il n'empêche que quand même ces personnages étaient les personnages masculins.
Est-ce qu'il y a quelque chose avec les noms des personnages dans ce film? Terzieff n'est pas Ruggiero mais Ruggeretto, c'est-à-dire le petit Ruggiero, et Brialy Scintillone, c'est-à-dire scintillant avec un suffixe plus ou moins péjoratif. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans?
Ben, Ruggeretto, c'est un diminutif affectueux. Hein. Ruggero est un prénom très masculin. Hein. Ruggeretto, ça lui donne une connotation plus délicate. Et quant à Scintillone, le scintillant, l'étincelant, ça tient, à mon avis, à la personnalité de Brialy, qui est un véritable... il a l'air constamment en action. Quoi. Alors que les autres aussi, mais vraiment celui qui est le plus dynamique, et celui qui d'ailleurs finira dans des conditions tragiques.
Vous allez nous le raconter après, oui.
Enlevé par la police.
Dans ses mémoires, d'ailleurs, Brialy raconte qu'il a été choisi sur photo et que quand Bolognini l'a vu, il a été déçu, il l'a trouvé trop gros et on lui a coupé les cheveux pour lui donner l'air voyou. Et ce qui est amusant, c'est que dans ses mémoires, Brialy dit « j'avais l'air d'un vrai voyou », ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il a l'air d'un premier communiant qui joue au voyou, non ?
Oui, oui, dans le film. Et... les surprises des acteurs choisis comme cela sans les avoir personnellement en face, il y en a de nombreuses dans le cinéma. Quoi.
Et alors, vous le disiez, Jean Gilly, il y a aussi dans ce film des filles qui sont donc des prostituées, l'une portant le nom de Supplizia. Je me demande s'il y a une indication sarcastique là-dedans.
Oui, mais sans doute, Supplizia, oui, qui subit le supplice, le martyr.
C'est ça. Et donc, le début du film est à ce que les Romains appellent à Caracalla, c'est-à-dire près des termes Alors, que se passe-t-il?
Dans cette voie qui longe les termes de Caracalla, qu'on retrouve là encore dans de nombreux films italiens, le passage par Caracalla est un passage, je dirais, obligé. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où les prostituées déambulent en attendant le client, à la fois ceux qui viennent les déranger et ceux qui viennent effectivement pour le but que celles-ci se sont fixées, et les garçons qui sont... Le film, de ce point de vue, n'est pas très explicite. Sont-ils les souteneurs? C'est pas clairement dit.
Non, c'est pas clairement dit.
Et je pense que non. Ces filles ont l'air d'avoir une indépendance comportementale qui pourrait laisser imaginer que ce sont des prostituées libres, qui ne travaillent pas sous le contrôle d'horribles garçons d'une autre nature que ceux qui viennent. Parce que ces garçons qui, finalement, les invitent, les amènent en voiture dans une tournée qui est assez représentative de différents quartiers de Rome.
Donc tout ça se passe la nuit, comme le nom l'indique, hein ?
C'est-à-dire que le film, il faut attendre 30 minutes. Hein. Le film ne bascule dans la nuit. Les 30 premières minutes, j'ai minuté, les 30 premières minutes se passent le jour. Et on se demande d'ailleurs... on n'est pas intrigué parce qu'on a le titre Les Garçons, mais si on a en tête le titre italien, on est un peu intrigué pourquoi La Notte est brave alors que le film se passe dans la journée, qu'il y a notamment le voyage en quelque sorte jusqu'à Ostie pour aller rencontrer un receleur à qui on va vendre des fusils, tout ça se passe en plein jour. On s'arrête cueillir des fleurs. Et donc le passage à la nuit n'arrive qu'après un certain moment, et évidemment c'est dans la nuit que ces personnages ont davantage leur humus naturel.
Et que se passe-t-il alors un peu plus précisément? Donc ils partent avec les filles?
Ils partent avec les filles, ils les entraînent. En fait, ils les entraînent pour ne pas faire le voyage seul. On a un peu l'impression que c'est sympathique. Ils sont d'abord quatre, et puis ils seront cinq, et puis finalement ils seront six.
Ils se font barboter leur argent par les deux filles.
Ils se font barboter. Alors, il y a un jeu sur cet argent qui passe de poche en poche entre les filles et les garçons pour finalement aboutir celui qui aura cet argent en dernier et qui finira de le dépenser, c'est Ruggeretto. Scintillone aura tellement fait le pitre avec cet argent et aura tellement essayé de s'imposer dans le cabaret où il est allé que les responsables du local vont appeler la police et il sera amené emporté par la police dans une fin peu glorieuse. Et toute la fin du film est plutôt portée par Ruggeretto, qui est finalement le personnage sans doute le plus intéressant.
Celui qui est joué par Laurent Terzieff.
Celui qui est joué parce que précisément Laurent Terzieff a une personnalité. L'intelligence de Bolognini, c'est de les avoir choisis tous les deux. Quoi. Parce que finalement, ce sont deux caractères très différents.
Oui, c'est vrai. Et physiquement
et moralement. Et même vis-à-vis de leur histoire artistique, ce sont deux acteurs très différents qui auront d'ailleurs tous les deux une part de leur carrière non négligeable en Italie. L'Italie fait venir un certain nombre de comédiens. Au passage, il faut d'ailleurs noter qu'ils sont doublés. Et j'ai cherché si les doubleurs, parce que quelquefois les doubleurs sont des spécialistes connus. Ceux-là, non, ce sont des inconnus qui les doublent. Enfin, ce sont des doubleurs professionnels qui ont été choisis parce qu'ils ont l'accent romanesque. Il est très important de leur donner une espèce de gouaille romanesque, comme il peut y avoir une gouaille parisienne. Et donc, ces acteurs sont doublés. Mais si on observe, si on regarde bien le film dans la version originale, la chose ne se sent pas. Il y a parfois des films dans lesquels on sent bien que la voix n'est pas celle de l'acteur qu'on voit sur l'écran. Là, c'est pas le cas. Ça fonctionne bien. Ce qui veut dire aussi que soit Brialy, soit Terzieff ont réussi assez bien à se glisser dans la peau de leur personnage. Ce qui fait que quand on leur colle cette voix, ça ne provoque pas une rupture. La chose fonctionne bien.
Alors, il y a une chose qui est frappante, c'est qu'on a parfois classé Bolognini dans les néo-réalistes ou la suite des néo-réalistes. Or, moi, ce qui me frappe dans ce film, c'est premièrement que ces deux garçons, en particulier Terzieff et Brialy, sont plutôt bien habillés pour des voyous, c'est pas normal. Et les prostituées sont ravissantes et elles devraient être actrices plutôt que prostituées. Dites-nous qui c'est d'ailleurs, c'est ces deux actrices qui sont les prostituées qui sont...
Il y a Rosana Schiaffino, il y a Elsa Martinelli, il y a Anna Maria Ferrero, il y a Antonella Lualdi.
Et tout
c'est
ça,
le gratin
oui,
des jeunes actrices sublime, du cinéma italien, sublime, qui sont toutes sublimes sublime, et toutes d'une beauté. Et Anna Maria Ferrero était l'épouse de Jean Sorel.
Et donc tout ça pour dire que le réalisme, c'est si on veut, quoi, parce que à la fois cette élégance des vêtements, l'élégance même assez naturelle de Bolognini, ces très jolies filles, on n'est pas du tout dans un film néo-réaliste.
Bolognini ne s'est que modérément réclamé du néo-réalisme. Il a grandi dans ces années, mais il s'en est éloigné. Il avait un très grand attachement à la forme, tout en n'étant pas, on l'a parfois de manière assez réductrice, classé parmi les formalistes, ce qui est faux. C'est quelqu'un qui savait nourrir. La forme n'était là que pour soutenir son récit. Et le fait que on remarque, les garçons ont pratiquement un uniforme. Ils sont tous en pantalon, bien sûr, chemise, manches retroussées, mais cravate, ce qui est surprenant.
Très surprenant pour des...
Et veste, mais comme on est à Rome et qu'il fait chaud... La veste, on la tient à la main, mais on l'a. Ce qui veut dire que quand le soir arrive et qu'ils vont essayer d'aller dans des boîtes de nuit, ou même aller dans les boîtes de nuit, ils enfilent la veste. Donc, ils ont un côté qui fait qu'ils peuvent se présenter dans une boîte de nuit où ils ne seront rejetés que s'ils n'ont pas d'argent. Mais s'ils ont de l'argent, ils seront acceptés. Et d'ailleurs, Ruggeretto finira par aller dans une boîte de nuit très élégante.
Alors, une chose cruciale qu'il est temps de dire, Jean Gilly, c'est qui est le scénariste des garçons, et c'est Pasolini qui est à ses débuts, on va en parler. Je crois aussi que Jacques-Laurent Bost est crédité, le Bost de la bande de Sartre. Qu'est-ce qu'il a fait exactement, Bost, dans le film, on le sait?
Il a probablement supervisé les dialogues de la version française.
Ah, d'accord.
Parce qu'il existe une version doublée, donc il a probablement supervisé, parce que Pasolini n'avait besoin de personne. Bost a fait comme un certain nombre de dialoguistes. C'est-à-dire, vous savez, dans le cinéma italien, vous avez les auteurs du sujet, les auteurs du scénario. Vous n'avez pratiquement jamais un dialoguiste crédité. Jamais. Donc, l'auteur du sujet, lorsqu'il écrit le scénario, écrit en même temps les dialogues. Et dans le cas de Pasolini, on le sait par des témoignages de Bolognini lui-même, Pasolini avait associé à l'écriture du scénario Franco Citti. Et Franco Citti, c'est le futur Acatone. Et dans les réunions de travail qui se faisaient, Citti était invité et participait à l'écriture romanesque, mais romanesque au sens de Rome, pas au sens romanesque de roman, à l'écriture des scénarios. Donc, le travail de Pasolini, qui était déjà imprégné par ce dialecte, il vivait lui-même à la périphérie de Rome avant de s'installer dans un quartier plus élégant, et son travail à lui, c'était de donner, d'apporter une patine d'authenticité dont il reprochait à Bolognini, de la gommer un petit peu.
Mais quand on dit, il me semble qu'il y a une légende, Jean Gilly, à propos des garçons, c'est que moi je vois partout, c'est une adaptation par Pasolini de son propre roman I Ragazzi, les Ragazzi, ce qui n'est pas vrai.
Ragazzi di vita.
Ragazzi di vita, ça n'est pas du tout.
Non, absolument pas. C'est un peu la même atmosphère, c'est un peu les mêmes décors, c'est-à-dire les Borgates.
Oui, mais c'est pas la même intrigue du tout.
Mais c'est pas du tout la même intrigue. Non. C'est un scénario, c'est un sujet original. Et un scénario écrit par Pasolini avec sans doute la collaboration de Bolognini. Et puis, alors ça c'était inconnu, il ne figure pas au générique, c'est ce qu'on appelle non crédité, Franco Citti.
Alors, c'est un film pour lequel on a fait à Bolognini la bonne vieille accusation homophobe qui serait misogyne parce que ces actrices sont des prostituées. Mais il me semble, et vous me direz ce que vous en pensez, que c'est oublié d'une part que ce sont des prostituées très malines et pas du tout souffrantes, et que d'autre part, je me demande, mais vous savez ça mieux que moi, si ces personnages de prostituées ne sont pas un moyen aussi de narguer la démocratie chrétienne au pouvoir et qui était très puissante à l'époque et très puritaine, et de montrer qu'il y a d'autres sexualités que la sexualité familiale tellement révérée en Italie.
Sûrement. Bolognini était quelqu'un qui était d'une grande liberté de ton, qui a tourné des films surprenants. Et je pense que le fait qu'il ait fait venir sur ce plateau les actrices les plus représentatives, d'une certaine manière, de la beauté féminine et de la beauté libérée. Ces personnages de femmes, alors souvent on a dit c'est un homosexuel, donc il s'intéresse seulement aux personnages masculins, il est misogyne, il était tout le contraire.
Nous allons maintenant entendre Lazzari Felici, les garçons heureux de Pino Daniele, et c'est une chanson de 1995.
Per non perdere la torre, simbolazzera felice, ma le rino ma non si dice, musicante senza permessi ci guarda, e che spalla sotto il cascio non si sente più la donna ma con volta santa vite a guerra rinde mano, sapendo che fanno. Sciva fatta roccia, che mia nonna non può far pace, ai sagape sotto tutto giù, che non si può acchiappare, e che faccia c'è scippata questa musica che Mario.
Jean Gilly, ce qu'il y a d'intéressant, je crois, en particulier dans Les Garçons, c'est que c'est un film de bande. On en faisait beaucoup à cette époque. La Fureur de vivre avec James Dean, c'est de 1955. Les 400 coups de Truffaut, de 1959. Au-delà du phénomène de mode, il me semble que ça veut dire quelque chose, parce que les personnages isolés en eux-mêmes des garçons seraient peut-être moins intéressants, et le fait qu'ils soient rassemblés, en particulier Terzieff et Briali, leur donne une densité, parce qu'au fond, ils sont modérément lâches, modérément escrocs, et c'est le phénomène de bande est intéressant.
Je crois que le phénomène de bande, il est essentiel et il est nécessaire. C'est-à-dire qu'on peut difficilement imaginer ces garçons à la dérive de manière isolée. Quoi. Ils montent des coups ensemble, ils essaient de dérober et de revendre. Ils séduisent les prostituées ensemble. Ils sortent en bande. On les voit difficilement seuls au volant d'une voiture, par exemple. Dans une voiture, on est toujours au minimum deux. Et éventuellement, on s'agrège à encore d'autres personnages que l'on peut rencontrer. Donc le phénomène de bande, je crois que c'est une chose absolument fondamentale. Et d'ailleurs, dans les romans de Pasolini, on est aussi en présence de bande.
Ouais, c'est vrai. Les garçons, comme les autres films de Bolognini qui ont des personnages jeunes, il y en a plusieurs, montrent la plupart du temps une jeunesse sans ambition qui court après l'argent ou des rêves petits bourgeois de bonheur. Et c'est une jeunesse, au contraire de Bolognini lui-même, qui n'a aucune conscience politique. En tout cas, dans les garçons, ils n'en ont pas.
Ils n'ont aucune conscience politique, ça c'est tout à fait vrai. Et dans un cinéma italien qui était très marqué politiquement, Bolognini ne l'était pas. Bolognini était resté un peu en retrait, même si finalement dans ses films ultérieurs, par exemple dans l'Héritage, l'Eredità Ferramonti, il décrit la montée de la classe bourgeoise qui va s'emparer du pouvoir au détriment de la vieille classe aristocratique et va laisser le peuple dans un état de pauvreté totale. C'est un film d'une violence sociale incroyable, l'Eredità Ferramonti.
Alors ces personnages des garçons, ils ne croient rien, ils ont cette chose un peu assez terrible à mon avis qui s'appelle les désirs, ils sont désabusés. Et d'ailleurs la dernière scène est assez frappante où on voit le personnage de Terzieff jeter son dernier billet de banque par terre.
Oui, ça c'est le comment dirais-je, s'il faut tirer une morale de l'histoire, c'est vraiment celle-là. D'ailleurs, le générique de début, c'est un amas de détritus en contrebas d'un pont, d'où émerge un billet de 1000 lires suffisamment ouvert pour qu'on puisse facilement l'identifier. Et tout le récit nous conduira à retrouver la même image, c'est-à-dire qu'à la fin, Terzieff, Ruggeretto, sort de la boîte de nuit, dépense son dernier argent en taxi. Et alors qu'il est persuadé que vraiment c'est fini, il a tout dépensé, hein, il a tout dilapidé. Il y a d'ailleurs, par parenthèse, un grand mépris vis-à-vis de l'argent. L'argent est absolument nécessaire, on ne peut pas vivre sans argent, on en a besoin constamment, mais en même temps on le méprise, on ne lui donne aucune valeur. Et donc quand finalement, plongeant sa main dans la poche, il découvre qu'il a encore 1000 lires, il jette ce billet. Il le jette par-dessus bord du pont qu'il est en train de franchir sur un petit affluent du Tibre. Et ce billet va servir, ce billet sur le tas d'ordures, sert de cadre sur lequel apparaît le mot fin, qui est exactement la même image que celle qu'on avait à l'ouverture.
Alors il y a néanmoins une autre scène de gratuité qui est assez brève et qui est pour moi une très jolie scène du film. Ce sont les garçons qui se retrouvent sur une plage et qui aident des petits garçons qui tirent hors de l'eau une aile d'avion, si je me
rappelle bien. Une aile d'avion, absolument.
Jolie scène.
C'est une scène magnifique. On est dans la nuit, on donne un peu d'argent à ces gamins qui en sont totalement surpris parce qu'ils ne sont pas habitués et qui tirent cette aile d'avion.
Ils les aident à porter
l'aile d'avion qu'ils vont essayer de vendre. C'est-à-dire que déjà, les enfants sont dans la logique d'essayer de trouver quelque chose qui pourra rapporter quelque argent. C'est une scène très touchante.
Très touchante, oui.
Dans sa brièveté. Et ça, je crois que c'est vraiment là où on voit que Bolognini a ce sens du détail. Voilà.
Il y a une chose dans ce film qui est très frappante. C'est que, est-ce dû à la sexualité réprimée du cinéaste ou au pessimisme de son scénariste Pasolini, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a aucun amour dans ce film. Et il n'est pas très étonnant à mon sens, mais c'est vous le savant, que les garçons forment, à mon avis, une sorte de paire avec le film suivant de Bolognini qui s'appelle La Giornata Ballord. Ça s'est passé à Rome, qui est adapté aussi d'un romancier triste qui est Moravia, parce que c'est adapté des nouvelles romaines.
Oui, oui. Je crois que Bolognini était quelqu'un qui cachait sous ses dehors d'une grande amabilité, d'une grande affabilité, d'une grande élégance, était quelqu'un de profondément désespéré, quoi. Bon. Et je pense que la rencontre avec Pasolini s'est un peu bâtie là-dessus, quoi. Je crois que Bolognini, d'abord, est le premier qui a compris ce que portait Pasolini en lui, quoi. Et d'ailleurs, il a déclaré dans un entretien que dans sa vie, il n'avait rencontré qu'un seul génie. Et c'était Pasolini, quoi.
Les garçons est un film qui a eu une influence considérable, non seulement sur les gens qui l'ont vu, comme vous probablement et moi en tout cas, mais aussi sur beaucoup de cinéastes, je crois. Et la scène où Brialy paie un bistrotier pour qu'il laisse son café ouvert alors qu'il y amène Antonella Lualdi a été citée presque que textuellement dans un film de Sergio Leone qui est très connu, qui s'appelle « Il était une fois en Amérique ». Et je présume que d'autres cinéastes ont été marqués par ce film.
Je ne sais pas si on peut trouver des éléments aussi proches que dans le film de Leone, où effectivement, Leone était pétri de citations et de connaissances du cinéma italien. Il a fait appel parfois à Bertolucci pour collaborer à ses scénarios, par exemple. Hein. Bon. L'influence de Pasolini... Et alors, vous voyez ce que je suis en train de dire. Je parle non pas de l'influence de Bolognini,
mais de Pasolini.
Mais de Pasolini.
En effet.
Parce que je crois que Pasolini, qui a aussi travaillé avec Fellini, Fellini qui a commencé par trouver que Bolognini faisait fausse route en faisant appel à ce garçon, finalement revient vers lui, quoi.
Il l'a pris dans quoi, Fellini?
Il l'a pris dans Les Nuits de Cabiria.
Ah, il l'a pris dans Les Nuits de Cabiria. Mais enfin, je voudrais pas qu'on diminue trop Bolognini en attribuant tout à Pasolini, parce que Bolognini avait beaucoup de talent. Donc,
je serais bien le dernier à faire ça, parce que je vous répète, j'avais une très très grande admiration pour Bolognini, que j'avais de son vivant et que j'ai encore, bien entendu, peut-être encore plus maintenant qu'il a disparu. Parce que, justement, ce qu'on voit bien dans ce film, c'est un curieux amalgame entre l'apport de Pasolini et l'apport de Bolognini.
Mais enfin, ça n'est pas un film de Pasolini, c'est un film de Bolognini.
Ah, c'est un film de Bolognini, bien sûr. C'est un film absolument de Bolognini. C'est un film qui montre bien comment, à partir d'un scénario, parce que pour faire un film, il faut un scénario. Hein, et plus le scénario est solide, plus le film a de bonnes chances d'être réussi. Et si vous avez, comme c'est le cas ici, un bon scénario et de bons comédiens, parce que là vraiment il faut les deux, hein. Il faut les comédiens et il faut le scénario. Si un metteur en scène qui sait conduire les choses, qui sait amalgamer, qui sait utiliser les apports que sont les comédiens, que sont le chef opérateur Nanuzzi, qui est un des grands chefs opérateurs du noir et blanc italien, les musiciens, les décorateurs, on arrive, même si c'est tourné en grande partie en décor, mais en grande partie, il y a une partie du film qui est tournée dans des studios, hein, des Paolis, quand on tourne à Rome, on croit toujours que c'est Cinecittà. Mmh. Il y avait aussi la des Paolis qui sont des studios presque aussi grands que Cinecittà. Donc, c'était en fait, Bolognini était un homme qui connaissait admirablement son métier, qu'il avait en partie appris en France, parce qu'il était venu, il avait été l'assistant de cinéastes français, et il savait, et c'est à mon avis j'allais dire le génie, c'est peut-être excessif, de grands cinéastes, de savoir s'entourer de collaborateurs.
Jean Gilly, que vous ont appris les personnages des garçons?
Alors, ce qu'ils m'ont appris, c'est que l'on peut mener cette vie, curieusement, avec une certaine dignité. C'est-à-dire, ce sont des voyous. Ce sont des êtres qui sont guidés par deux obsessions, le sexe et l'argent, et qui réussissent malgré tout à découvrir une certaine tendresse dans le rapport avec les femmes et à mépriser l'argent. Alors quand on pense que l'on est guidé par ces deux éléments qui pèsent sur vous et du matin au soir, pratiquement vous réveillez le matin, et que vous parvenez à avoir finalement une tendresse forte, hein, l'histoire finale entre Rosanna Schiaffino et Terzieff, une très très belle histoire d'amour, hein, qui la raccompagne en taxi, et on s'attendrait à ce qu'il la ramène forcément chez lui, ou qu'il aille chez elle. Non, il la raccompagne, il la dépose, et que l'argent, le dernier billet de 1000, qui pourrait lui permettre le lendemain matin de boire un café, quoi, hein, il le jette. Je trouve que ces personnages ont une espèce d'élégance... oui, d'élégance, parce que même une élégance physique, on l'a souligné dans leurs vêtements, mais aussi, curieusement, une certaine élégance morale.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
C'était Personnage en personne, le 105e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Meryl Moneghetti, prise de son Marie le Peintre. Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le Rayon BD.
Grand jeudi, tous les jours paradis, de l'autre côté de la vie.